Vous écoutez Vie d'aventure par Denis Brognard.
Vous ne connaissez certainement pas Mélusine Malandert et pourtant, elle gagne tellement à être connue. Elle parcourt le monde à moto, seule, pour aller à la rencontre des autres, avec une obsession, comprendre sur les 5 continents ce qu'est la liberté, notamment pour les femmes, dans des pays où le mot « liberté » a une signification toute relative. Sa moto, c'est sa maison itinérante. Ses compagnons, ce sont ces hommes et ces femmes qu'elle rencontre au gré de ses périples. Avec tact et un sens de l'écoute exacerbé, elle tente de percer les voies de la liberté. Mélusine Malandert est mon invitée aujourd'hui dans Vie d'aventure. Écoutez-la, son message est apaisant. Bonjour Mélusine.
Bonjour Denis.
Tu as un prénom de fée du Moyen-Âge, un prénom rare. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as toujours été aventurière dans l'âme ?
Je crois que j'ai toujours été curieuse dans l'âme. Ça, c'est vraiment dans l'ADN et j'ai toujours voulu voyager. Ça, c'est aussi longtemps que je me souvienne, c'est quelque chose que j'ai voulu faire.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, tu as des parents qui t'ont emmené vers le voyage, qui étaient un peu hippies, un père anglais, une mère française, et vous partez à l'aventure en famille, en van.
Bah, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, mais par contre, ils aimaient bien se balader. Et on avait un van vraiment de hippie. On allait voir la famille. Et après, ils ne voyageaient pas forcément énormément, mais la maison a toujours été ouverte. J'avais une maison qui n'avait pas de clé. La maison était en bordure de forêt. On avait un cheval. Les gens venaient à la maison. La maison a toujours été accueillante. Donc même si on a voyagé quand même avec mes parents, l'idée que les gens pouvaient venir à la maison n'importe quel moment, n'importe quelle heure, c'était vraiment très fort.
Alors, ton rêve à ce moment-là, pour voyager, c'est de devenir hôtesse de l'air.
Oui, ouais, on fait un grand voyage aux États-Unis, j'ai 5 ans. Et là, je découvre l'avion et je veux être... Là, c'est... Ouais, je veux devenir hôtesse de l'air. C'est une évidence. Je veux toute ma vie être dans un avion, voir les nuages, aller d'un pays à l'autre. Ça me semble être le métier idéal.
C'est le comble de la liberté que d'être hôtesse de l'air pour toi à ce moment-là, quand tu es une petite fille ?
Oui, c'est vraiment l'idée de pouvoir aller d'un point à l'autre du monde, de pouvoir découvrir. Enfin, y a pas de limite. Les airs, c'est... Ouais, c'est ce qu'il y a de plus large en termes de liberté à ce moment-là.
Finalement, on comprend que dès ton plus jeune âge, ce sentiment de liberté t'anime. Alors, pourquoi l'aventure à moto ? Pourquoi la moto ?
La moto est une histoire familiale, je dirais, que mes parents sont motards. Mon père d'abord et ensuite ma mère. Donc j'ai toujours eu des motos à la maison. Après, ça fait pas forcément des motards. Des parents motards font pas des motards parce qu'on est 3. Et je suis la seule à posséder une moto et à conduire une moto et à vouloir vivre ma vie en moto. Les autres sont plutôt en voiture. Mais c'est sûr que c'était un exemple à la maison. Et moi, dès que je peux, j'ai une moto. Je m'achète dès que j'ai l'argent, dès que je dois travailler, je m'achète ma 125. C'est quasiment devenu ma compagne de vie. À ce moment-là, je suis toujours en moto. Je vais au boulot en moto, je vais voir mon copain en moto, je vais voir mes amis, je vais faire mes courses. C'est mon jolly jumper.
C'est cette fameuse 125 Honda qui te permettra d'aller au bout de l'Asie à Vladivostok ?
Oui, ouais, c'est vraiment... Ma moto, cette moto-là, c'était une compagne, c'était une vraie partenaire de vie. C'est celle avec laquelle je me suis aussi construite en tant qu'adulte, en tant que jeune adulte. Et je l'ai achetée neuve. Et quand elle a... C'est 8 ans plus tard à peu près, elle avait 110 000 km. Donc c'était pas mal pour une 125. Je sens qu'elle est vraiment vieillissante. Le garagiste me dit « Bon, voilà, votre poubelle, faut la jeter. » Et pour moi, c'était hors de question. C'était comme jeter mon ami. Donc cette moto était vieille et c'est vraiment une histoire sentimentale. Cette moto, je ne veux pas la jeter, je ne veux pas la donner. Je décide de faire vraiment un dernier voyage qu'on va faire toutes les deux avec l'idée d'aller le plus loin possible. C'est vrai que tout le monde me dit c'est vraiment c'est débile, on ne fait pas ça, on ne part pas en 125, on ne part pas en plus avec une 125 âgée, on ne part pas seule, en plus j'étais une femme. Mais pour moi, c'est hyper important. Et comme c'est une japonaise, c'est une Honda, je décide de l'offrir au musée Honda parce que c'est... cette moto m'a offert ma liberté, dans un sens. Pour les remercier, je me dis, je vais leur donner. Et j'imagine ce voyage d'aller vers le Japon. Et donc, on part un matin de juin et ouais, c'est complètement fou.
Bon, on va revenir évidemment sur ce Paris-Tokyo potentiel. Mais d'abord, l'aventure, elle commence à deux et sans moto. On est en 2009 et là, tu pars en kayak et à pied en Patagonie avec ton compagnon Christian Clos, aventurier lui aussi, avec une idée totalement folle, traverser la cordillère de Darwin, qui est en fait une chaîne de montagnes que personne n'a réussi à traverser, qui est encore totalement inviolée. C'est là que ta vocation véritablement naît ?
Je dirais qu'elle ne naît pas là, elle devient possible. Là, ça va être une découverte pour moi-même. C'est me dire, bah oui, en fait, je peux. Je peux m'autoriser à rêver à ce genre d'aventure.
À ce moment-là, c'est pas... te faire ombrage que dire que tu es plutôt suiveur derrière l'explorateur, l'aventurier confirmé qu'est ton compagnon Christian.
Pas du tout, c'est la réalité. Moi, je suis accompagnatrice, je suis même stagiaire de l'aventure. Et c'est lui qui va me montrer pas à pas. Alors, ça va être un peu rude, hein. C'est un stage intense. Je le suis et c'est pour ça que j'ai besoin ensuite de partir seule, pour essayer de faire mon propre aventure, de faire ma propre construction. Mais à ce moment-là, je ne connais absolument rien et j'ai besoin de ça.
Partir à deux, c'est déjà compliqué, dans un univers hostile. Et en plus, quand la deuxième personne, c'est son compagnon, j'imagine que dans les moments difficiles, la difficulté doit être accrue.
Ce qui se passe en expédition pour un couple, et c'est tout l'enjeu et c'est toute la difficulté du couple, c'est de partir en tant que couple d'amoureux et de revenir en tant que couple d'amoureux. Parce que pendant l'expédition, on devient une cordée. On avance ensemble. La priorité, c'est la survie, c'est d'avancer ensemble. C'est l'objectif qu'on va peut-être changer au fur et à mesure des jours. Mais on est moins un couple d'amoureux. Il faut se débarrasser en fait, de ça. Et après, quand on revient, quand on sort de cette expédition, il faut revenir à cet état d'amoureux. Et ça, beaucoup de couples n'y arrivent pas.
L'année d'après, tu décides de t'émanciper, exit Christian pour l'aventure et tu pars seul. Donc dans ce projet totalement fou de rapporter au musée Honda au Japon cette vieille 125 qu'on voulait mettre à la casse, en tout cas que ton garagiste voulait mettre au rebut. Qu'est-ce qui t'anime à ce moment-là ? Est-ce que c'est la liberté de voyager sans contrainte ? Seul et de faire exactement ce que tu veux à l'instant T.
Ce qui m'anime, c'est je pars à ce moment-là avec un besoin. C'est vital. Je dois partir et je dois ramener cette moto. Je veux vivre mon aventure avec un grand A et la mienne. Et je veux partir seul. C'est très important. J'ai besoin de vivre ça pour moi, de me construire, de savoir mes propres limites, de devoir, je dois me débrouiller toute seule, je dois le faire seule. Et là, oui, c'est un besoin, je dois m'en aller.
Tu dis à ce moment-là, si tu veux aller vers les autres, il faut que tu leur fasses confiance. Parce que, encore une fois, ton aventure, c'est évidemment d'avaler les kilomètres en moto, plus de 20 000 au total, mais c'est surtout de rencontrer les gens, d'aller à la rencontre des autres. Est-ce que c'est difficile, finalement, quand on est seul, à moto, dans des pays qui ne sont pas forcément ouverts, eh bien de pénétrer l'univers des gens, d'aller à leur rencontre ?
C'est difficile quand on a peur. Mais ce n'est pas difficile quand on est seul et quand on a une moto. Le fait d'être seul, au contraire, je crois que ça amène l'autre à venir vers soi parce qu'on est seul. Et c'est un peu dans notre instinct d'humain d'aller vers l'autre. On est des animaux très sociaux. Ouais. Et la moto, ça crée un lien qui est très fort. Les gens, globalement, aiment bien la moto. Et il y a quelque chose qui se crée. C'est où tu vas, d'où tu viens, comment est ta moto, comment t'es arrivée ici. Et quand ils voient une femme toute seule qui a Enfin, je dis, mais comment c'est possible? Souvent, les gens disent, mais il est où, le mari, les amis? Enfin, elle t'attend quelqu'un? Et je suis là, non, non, je suis toute seule. Je vais, en plus, avec ce premier voyage où je dis, bah voilà, mon rêve, c'est d'amener cette moto vers le Japon. Il y a quelque chose qui se crée et c'est pas difficile. Mais au début, ça l'est. Quand je pars au début, j'ai peur parce que les gens, ils vous chargent de beaucoup de peur, de dire, voilà, tu vas être seul, tu vas te faire violer, on va te voler la moto, les autres sont dangereux. Et je vais mettre un petit peu de temps à me défaire, en fait, de cette peur-là. Mais à partir du moment où j'arrive à m'en débarrasser, sans pour autant être complètement naïf, hein, faut être vigilant, c'est beaucoup plus facile. Et je crois que c'est... Enfin, on va faire quelqu'un, on sourit, on dit bonjour, comment vous allez, ben, oui, on est des humains, oui, bien sûr, on va sourire. Oui, bonjour, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es venu en moto, c'est naturel.
Moi, je voudrais qu'on revienne sur une rencontre, celle de cette maman, de cette babouchka ukrainienne et de son fils, à la mine, c'est vrai, un peu patibulaire, qui t'accueille comme si t'étais quelqu'un de la famille.
Alors ça, c'est... ça, c'est justement... Une des rencontres qui va se débloquer pour moi lors de ce premier voyage, c'est que je suis arrivée à un moment donné, je suis très fatiguée, il a beaucoup plu, donc peu de gens sont dehors, et je suis très seule, et je suis exténuée. Je suis mentalement, je suis en train de me demander, ça fait une dizaine de jours que je voyage, je suis toute seule, je suis trempée, je suis vraiment trempée jusqu'aux os. Il faut vous dire que je suis partie avec ce que j'avais, hein. Je suis partie avec ma 125 qui était vieille, mais aussi tous mes équipements. Donc j'ai des sacs poubelles dans les bottes, parce qu'il pleut, parce que j'ai pas d'argent, j'ai juste une petite tente que j'ai achetée et qui vaut rien, et je suis sous cet arbre, et je suis paumée à ce moment-là, je sais même pas où je vais dormir, et lui il arrive avec sa voiture. Il ouvre la fenêtre et il est là en parlant en ukrainien. Ah baba, viens, viens. Et je suis là, mais je sais pas où aller. Je le suis. Et en temps normal, je l'aurais jamais suivi. D'ailleurs, quand on est enfant, on vous dit il faut pas suivre les inconnus. Hein, c'est quand même très fort. Et je le suis parce que je me dis bon ben voilà, allez, qu'est-ce que j'ai à perdre.
Tu es d'accord. En plus, il est pas très accueillant comme ça.
Hein non.
Hein,
c'est pas, il a une tête de mafieux.
Ben voilà, c'est pas le gentleman, c'est pas le prince charmant que tu imagines.
Non,
quand il
non,
ouvre la fenêtre. Hein.
Il ouvre la fenêtre, voilà, on l'imagine beaucoup plus dealer de voiture que d'être. Je sais pas. Mais je me dis quand même, je suis avec sa voiture et je suis en train. Et plus ça va, plus je me dis, attends, quand même, je suis ce mec, t'es folle. Regarde le chemin. Les maisons, je regarde les arbres, je regarde le chemin. Si je dois faire demi-tour, par où je dois passer? On va sur un petit chemin, je me dis, mon Dieu, où est-ce qu'il m'emmène? Et quand on arrive vers sa maison, là, je vois dans le jardin des jouets pour enfants. Et sa mère sort sur le perron. Et là, je me dis, OK, d'accord, je le suis. Et ça va être deux, trois jours avec eux qui vont être formidables. Sa mère va me gaver, me nourrir. Lui, il va me faire visiter tous les alentours avec ses amis. Et ça va être très chouette. Ça va me requinquer. Et c'est là que je vais me dire, mais attends, si j'avais eu peur, je ne serais pas allée chez lui. Et c'est dommage parce que, en fait, c'est souvent notre propre frein. On est souvent notre propre limite. C'est nous qui nous disons, non, je ne peux pas faire ça. Et donc... Je me suis dit, mais c'est complètement débile parce que cette personne-là, elle est géniale. Et si j'avais eu peur, ben je ne serais jamais allée chez lui et je serais passée à côté de quelqu'un qui est vraiment gentil et qui a eu la patience de me montrer tout son univers. Et ce que moi, je voulais, c'était vraiment partager des moments avec des gens. Et c'est ce que je vais faire avec Sacha et sa mère.
Tu vas ensuite découvrir la Mongolie. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que tu décides de t'orienter avec une carte et pas avec un GPS. Tout ça pour pouvoir aussi provoquer les rencontres avec les gens lorsque tu cherches ta route.
Oui, j'aime la carte, j'aime le papier, j'aime sa texture, j'aime pouvoir m'orienter et voir où je vais grâce à la carte. Le GPS, c'est un outil formidable et je pense qu'il faut pouvoir l'utiliser, mais c'est pas lui qui doit décider de mon chemin. Moi, je veux toujours être en contrôle de ce que je veux et je trouve que se perdre, c'est aussi l'opportunité d'aller vers l'autre.
C'est extraordinaire d'entendre ça parce que c'est la réalité. Alors, ça paraît formidable ton voyage. Tu rencontres des gens qui t'apportent beaucoup. Tu voyages, tu découvres des paysages somptueux, notamment les steppes de Mongolie. Mais derrière tout ça, avec en plus une vieille moto, une vieille guimbarde, petite cylindrée, il doit y avoir quand même pas mal de galères. Parle-nous des pannes. Parce que c'est pas rose tous les jours.
Non, c'est pas rose tous les jours. La moto est vieille, donc je pars déjà avec un gros handicap. En plus, il faut se dire que j'étais tellement persuadée que je n'irais pas loin, je suis partie avec juste la trousse à outils de la moto. Le truc qu'on reçoit quand on l'achète.
C'est-à-dire rien, trois petites pièces, trois petites clés, juste pour éventuellement être dépannée dans une rue de Paris, quoi. Hein.
Exactement, mais c'est très bien fichu. Mais je pars avec rien, je pars avec aucune pièce détachée. Donc ça va être, tout ce voyage-là, ça va être quasiment un apprentissage aussi de mécanique. Je vais tout perdre. Là, je vais perdre mes plaquettes de frein. Je suis au fin fond de l'Ouzbékistan. Je vais tomber sur des motards qui vont m'aider, ils vont retailler une pièce de plaquette de frein, on va repolir le disque, on va le remettre, je vais perdre le roulement arrière, j'ai l'embrayage qui commence à faire la gueule à la fin, ouais, je suis en Mongolie, elle fait la gueule, la suspension va casser, en Mongolie aussi, à cause, le terrain est hyper difficile, donc j'ai quasiment le ressort de la suspension qui va casser, on va d'abord me le ressouder, ensuite il va falloir que j'en rebidouille un avec des gens qu'il va falloir que je trouve au marché noir. Je vais devoir changer mes bougies constamment. À la fin, tous les 50 km, je dois m'arrêter, brosser les bougies, les remettre parce qu'elles fondent.
Ouais.
Mais tout ça, à chaque fois, ça va être l'occasion aussi de rencontrer des gens. Ces bougies, par exemple, je suis au fin fond de la Sibérie. À un moment donné, ces bougies chinoises, j'en ai ras-le-bol. Donc, je vais dans un magasin et j'explique mon problème. Et là, le motard, il voit ma moto. Il prend les bougies de sa propre moto, il va me les donner, il va dire « voilà, c'est des bougies japonaises et tu peux finir ton voyage avec ces bougies-là ». Et c'est extraordinaire. La solidarité qui va exister, l'entraide entre motards, elle est très forte. Et je vais être comme ça, aidée au fur et à mesure du voyage. Et ça va me faire apprendre à connaître mieux ma moto. Et à la fin, la moto va finalement me dire un peu adieu. On va voir la mer, on va arriver à Vladivostok et ça va être la fin pour cette moto-là et elle va rester à Vladivostok.
Tu as fait un peu le parcours du Transsibérien jusqu'à Vladivostok. Il te reste à traverser la mer pour te rendre au Japon. Mais là, effectivement, ta moto, elle dit « je n'irai pas plus loin ». Et moi, j'ai vu les images de ton visage à ce moment-là. Tu vas perdre ta compagne. Tu vas perdre ton ami. Tu es en larmes. Même si tu trouves que symboliquement, c'est beau qu'à cet endroit-là, à l'extrême fin du continent russe, cette moto rende l'âme.
C'est un déchirement, c'est une perte de moi-même aussi, ça va être très difficile de l'abandonner. Et c'est toujours difficile, enfin, je pense toujours à ce moment-là, j'ai toujours beaucoup d'émotions. Même si c'est une machine, pour moi elle était un petit peu plus, je sais que c'est une moto, mais elle était plus que ça, et je crois qu'elle avait une sorte d'âme. Et là, je dois lui dire au revoir, et c'est la fin du voyage. Et...
Donc, elle ne verra jamais le musée Honda au Japon.
Non, elle va rester à Vladivostok chez des amis russes.
Mélusine, après cette première épopée Paris-Vladivostok avec une petite moto, tu passes à la dimension supérieure, plusieurs voyages, 150 000 km parcourus, 50 pays traversés, cette fois-ci avec une plus grosse moto, hein, une Triumph 850 cm3, en meilleur état aussi. Et l'objectif à ce moment-là, c'est vraiment les rencontres, parler de liberté, besoin d'écouter les gens parler de liberté. Et c'est à ce moment-là que tu lances ton grand projet intitulé « Les voies de la liberté ».
Et oui, ça va venir progressivement. Quand je vais revenir de ce premier voyage en 125, dans un sens, moi, j'ai trouvé ma propre liberté. Je suis allée au bout de mes propres limites et je me suis construite et j'ai plus de limites. Dans un sens, je sais que je peux presque tout faire si j'en ai envie.
Les voies de la liberté. Ces rencontres un peu partout dans le monde, comment fais-tu pour apprivoiser les gens, même ceux qui habituellement ne parlent pas? Quelle est ta stratégie finalement pour pouvoir établir cette confiance entre vous?
Je crois que si on peut parler de stratégie, j'accepte l'autre comme il est, au maximum. S'il n'a pas envie de parler, il n'a pas envie de parler. Mais souvent, les gens ont besoin ou envie de dire des choses. Il faut leur laisser du temps et les prendre sans les juger. Et pas attendre d'eux plus que ce qu'ils peuvent faire ou de ce qu'ils peuvent donner. Moi, je suis de passage. Je dois prendre conscience aussi que la question que je pose sur la liberté peut avoir un impact. Forcément, quand je pose la question « qu'est-ce que c'est la liberté pour toi ?» et « qu'est-ce que c'est un moment de liberté pour toi ?» même si je posais cette question à une personne ici dans la rue où pourtant on a quand même liberté, fraternité, égalité devant nos écoles, on connaît ce mot, ce serait difficile d'y répondre comme ça. Donc il faut toujours un petit peu de temps et puis en discuter. Et la moto m'aide énormément parce que je peux dire, regarde, moi, tu vois, je conduis ma moto, je vais où je veux, ça me donne une impression de liberté. Et là, ça permet de dire, ah oui, c'est vrai, tout de suite, ça parle, c'est évident. Voilà, oui, la moto, elle te permet d'aller où tu veux. Et donc, du coup, après, on peut en discuter. Et peu à peu, on arrive à cette réponse qui va être la leur. Et pour moi, c'est très important de respecter ce qu'ils sont et ce que les gens veulent montrer ou pas montrer, parce que c'est leur, justement leur liberté.
Mais l'usine, deux réactions qui m'ont particulièrement marqué au cours de tes rencontres. D'abord, cette femme en Indonésie qui te dit « La liberté pour moi, c'est pouvoir utiliser ma tête. » Ou encore ce vieil homme au Rwanda qui te dit « Sans liberté, on se détruit. » Mais je voudrais qu'on revienne ensemble sur une rencontre incroyable, tellement rare que tu as pu faire au Népal, avec d'anciennes esclaves Kamalari, qui étaient vendues par leurs parents à de riches propriétaires terriens. Raconte-nous, et j'en ai des frissons quand je te pose la question, cette rencontre, ce partage avec Salou, quelque part au Népal.
C'est vraiment par hasard que je vais rencontrer Sanou. Je suis avec ma moto, j'ai besoin de l'entretenir, il y a quelque chose sur la moto que j'ai besoin de regarder, et je vais m'arrêter dans ce garage. Et dans ce garage, il y a une femme mécanicienne. C'est très rare chez nous, c'est extrêmement rare là-bas. Donc c'est un choc, je suis hyper contente de découvrir cette femme. Et au début, quand je vais discuter avec elle, je lui dis, ah, c'est génial, j'ai envie de lui parler, mais son anglais n'est pas très très bon. Alors moi, j'ai toujours des questions dans la langue du pays, donc j'essaie de lui poser des questions. Et là, elle me dit, demain, tu m'emmènes au temple. Je dis, bon, d'accord, ok. Enfin, je sens que bon, c'est pas grave, on va pas pouvoir faire un interview. Mais on va manger ensemble, on passe un temps ensemble, c'est vraiment rigolo, elle est fascinée par la moto, elle adore la moto, et le lendemain je la prends sur la moto et on va au temple. Et là elle m'emmène pas du tout au temple, elle va m'emmener dans l'association qui aide les Kalamori à se libérer. C'est l'association qui l'a aidée, qui l'a sortie de son esclavage et qui l'a formée à être mécanicienne. Et là je vais rencontrer ses copines et Urmila qui est une des têtes de file de cette association. Et elle va me servir de traduction parce qu'elle avait envie de parler et elle n'arrivait pas parce qu'elle avait sa langue et qu'elle voulait pouvoir m'en dire plus. Donc, elle va utiliser Urmila pour pouvoir justement traduire tout ce qu'elle avait envie de me dire le jour d'avant. Et ça va être complètement fou parce que elles sont des personnes donc, ce ne sont que les filles qui vont être données en esclavage dans des familles plus riches sous prétexte de pouvoir mieux les éduquer, les élever parce qu'on... Il faut bien considérer que les parents n'ont pas d'argent, ils n'ont pas les moyens de garder leurs enfants, de les nourrir, ni de les vêtir, et ils pensent que c'est la meilleure solution. Sauf que ça reste de l'esclavage, et jusqu'en 2013, ce n'était pas interdit au Népal. Et ces filles, elles sont complètement lumineuses. Elles ont vécu l'esclavage pendant des années. Pendant des années, elles n'ont jamais pu décider de ce qu'elles pouvaient faire, de ce qu'elles pouvaient manger. C'était toujours « tu vas où, tu restes dans cette pièce ». Elles n'ont pas été éduquées, on ne leur a pas autorisé à penser, à s'autoriser, à réfléchir à ce qu'elles voulaient pour elles-mêmes. Et tout d'un coup, grâce à cette ONG, on va leur apprendre un métier, on va leur dire, voilà, vous pouvez décider de la formation que vous voulez faire, vous pouvez décider de prendre votre vie en main. Et c'est un bouleversement et une joie pour ces femmes. Et Sanu, c'était quelque chose d'assez vibrant parce qu'elle avait, elle était libre. Et elle me disait que, tu vois, si je veux prendre ce verre d'eau, c'est mon choix. Je le vis pleinement, j'en suis heureuse. C'est, voilà, je suis libre et je suis libre de pouvoir te parler. C'est une liberté. J'ai le droit de le faire. Je peux me donner le droit de le faire et ça, ça n'a pas de prix.
Tu dis, à travers tes expériences, notamment avec des femmes du monde entier, que les femmes, c'est le baromètre de la liberté. Pourquoi ?
Quand on regarde d'une manière globale la condition des femmes dans un pays, sur ce qu'elles peuvent faire, plus dans un pays on va voir des femmes qui sont opprimées, qui ont peu de droits, et plus on va s'apercevoir, enfin, moi je l'ai plutôt vu de cette manière-là, et plus c'est difficile pour le reste de la population, et plus la femme va avoir le droit de faire des choses, et plus il y a une répercussion positive sur l'ensemble de la population. Les typologies de vie sont plus acceptées, plus la femme peut vivre sa propre vie, je dirais.
Alors quand on voyage seul et qu'on est une femme, comme toi Mélusine, j'imagine qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué, notamment avec la jante masculine. Est-ce que tu as rencontré des problèmes dans certains pays à être seul avec ta moto comme ça, dans un univers où c'est impossible de se retrouver dans une situation comme celle-ci?
Dans beaucoup d'endroits, les femmes ne voyagent pas seules. Et du coup, pour beaucoup d'hommes, donc dans l'imaginaire masculin, une femme seule, c'est une femme qui est à la recherche d'aventure. D'aventure un peu voilà, amoureuse.
Et là, tu parles d'aventure au pluriel et pas de l'aventure.
Non, voilà, c'est ça. C'est, faut remettre aussi dans le contexte de ces pays où il y a une sorte de misère sexuelle, de misère amoureuse. On n'a pas de petite amie. On va être marié, on va choisir l'épouse, on ne pourra pas divorcer. Et il n'y a pas l'occasion d'avoir une petite amie ou alors on va aller voir une prostituée. Et comment est-ce qu'on découvre la vie sexuelle? C'est par de la prostitution ou par la pornographie ou les copains. Et la pornographie, c'est souvent de la pornographie qui vient de chez nous ou qui est une pornographie plutôt blanche avec des scénarios. Le scénario, une jeune femme arrive avec sa tante et sa moto et vous dit « je voudrais camper là ». Bon, bah, pour certains garçons, le chemin, il est très court. Hein.
Alors justement, et à un moment, tu te retrouves sous ta tente, un peu perdu au milieu de nulle part. Et là, tu reçois la visite de plusieurs garçons.
ça fait partie des aventures qui ont été des leçons. Il se trouve que je m'étais installée de nuit dans un endroit très sympa, en plein milieu de la steppe kazakh. Il y a des chameaux qui passaient, j'étais bien. Là, il y a une camionnette qui est passée avec un garçon qui s'appelait Bibeut. Il se trouve que son frère habitait à 2 kilomètres plus loin. Et on va passer le goûter ensemble. Il va me présenter à sa famille, je le suis en moto. Puis après, il va repartir. Sauf que Bibeut, la nuit passant avec ses copains, en y réfléchissant, en buvant quelques coups, à 3h30 du matin, il a eu enfin un peu de courage et il est revenu à ma tente. Et du coup, à 4h, j'ai entendu la voiture arriver, s'arrêter à côté de la tente. Et j'étais là, c'est bizarre ça, 4h du mat, bon, mauvais signe. Et j'ouvre la tente et sort de la camionnette avec ses copains. Et il vient et il me demande, voilà, salut, est-ce que je pourrais venir dans ta tente? Ce serait sympa. Et là, il a fallu que je sois hyper ferme et expliquer que, bah non, je n'étais pas venue pour ça, que ça ne m'intéressait pas, que ensuite ses copains sont venus pour me dire, bah peut-être que tu ne veux pas avec lui, peut-être avec nous. Ouais. C'était complètement hallucinant. Et là, je me suis vraiment très énervée. J'ai commencé à lui dire, tu vois, il y a ton frère. Je vais commencer à lui raconter. J'ai pris mes affaires et je suis allée de manière très décidée, en disant « si tu continues comme ça à me harceler, je vais aller voir ton frère ». Et là, il a commencé à avoir peur et il est reparti. Mais c'est devenu une leçon, c'est-à-dire autant avant, j'étais très timide, je n'osais pas forcément aller, je ne voulais pas déranger les gens. Autant après cette histoire-là, je me suis dit « non, mais ma sécurité est quand même assez importante, je vais dormir plus près des gens et je vais aller chercher plutôt les femmes où il y avait des enfants pour aller camper à côté pour justement me protéger ». Parce que cette solitude crée une sorte de vulnérabilité pouvait justement amener ce genre de situation un peu inconfortable.
Tu as eu peur parfois ?
Et j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. J'ai pas eu sur le coup, je me souviens pas avoir eu peur. J'avais une piqûre d'adrénaline, j'étais énervée, j'étais plutôt battante. Mais ça m'a fait suffisamment peur pour que après, j'ai plus peur de demander à camper à côté d'une maison. Mais oui, ça fait peur.
Et puis pendant ces dizaines de milliers de kilomètres, ben avec ces rencontres, t'aurais pu te marier à de nombreuses reprises.
Ah bah les propositions de mariage, ah ça c'est sûr que j'ai trouvé des prétendants à tire-larigot là. J'aurais pu m'installer à de multiples endroits. C'est tout le paradoxe de ces personnes, de ces hommes qui adorent ma liberté mais qui sont incapables d'imaginer que je puisse pas être enfermée. Il y a une sorte de séduction de faire « Ah, cette femme, elle est libre, elle est libérée, il y a une sorte de liberté sexuelle, mais il faut la refermer, il faut l'attraper et après elle ne bougera plus. » Ben moi, c'est impossible. C'est impossible et puis après, ben, on rigole. Et c'est tout l'enjeu et c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'être un petit peu souriante, il faut rigoler, il ne faut pas les mettre... dans une situation qui soit déshonorante. Donc, on peut pas. Il y a des moments où j'ai eu très peur, hein, où, où je suis entourée d'hommes. Le gars, il essaie de t'embrasser devant ses copains. Il est midi, on est en Inde. Et là, qu'est-ce que tu fais? Si tu le rabroues, il peut devenir un peu hargneux, méchant, il peut vouloir se venger. Et moi, je suis toute seule. Hein, il suffit de pousser ma moto, la moto est par terre et tout peut arriver. Donc, il faut quand même être assez maligne. Je dirais, pour réussir à ne pas se mettre dans cette situation-là, et puis essayer d'être toujours dans une négociation avec l'autre, réfléchir à la manière dont il pense pour essayer d'avancer sur ses leviers à lui. Ça peut être l'honneur, la religion, le père, le frère, et de lui donner des limites en disant « ça, on peut pas, même si je suis seule, même si dans ta manière de penser, tu aurais des droits de pouvoir me demander ce que tu me demandes, eh ben non, c'est pas possible pour telle et telle raison ». Donc non, c'est de la négociation. On apprend à être une grande négociatrice.
Mélusine, est-ce que quand on se lance à l'aventure, c'est plus difficile de le faire quand on est une femme ?
Je pense que pour une femme, se lancer à l'aventure, on n'a pas les mêmes freins qu'un homme. Un homme, il aura peu peur de se faire agresser sexuellement.
C'est clair.
C'est clair, oui, voilà, c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément en tête, ça. Alors que pour une femme, c'est quelque chose qu'elle a dans son quotidien, mais de vie. Une femme qui sort le soir et qui va rentrer chez elle, c'est quelque chose qu'elle aura toujours en tête et c'est une peur qu'elle a viscérale. Et donc, forcément, quand on part à l'aventure, cette peur-là, elle existe aussi et elle est un frein. Ensuite, je pense que dans nos sociétés, on n'encourage pas forcément les femmes. C'est inconscient à s'émanciper. Et du coup, on a un peu plus de freins et un peu plus de barrières à combattre pour soi qu'un homme. Parce que la société nous dit qu'il faut qu'on se protège, qu'il ne faut pas prendre de risques, qu'il faut faire des choses qui soient sans danger. Donc, on doit aller au-delà de ce schéma-là. Et ça ne peut pas forcément un schéma qui est impossible. On a des femmes qui sont aventurières. Enfin, il y a pas mal de femmes aventurières qui ont des enfants et qui sont mariées. C'est justement pas incompatible avec la vie d'aventure. Mais on nous persuade que ce n'est pas possible. On le persuade aussi pour les hommes. Mais ce n'est quand même pas une femme qui est enceinte. Elle peut moins partir à l'aventure. On ne demandera jamais à un homme qui a des enfants... Vous êtes parti 3 mois sur le pôle sud et avec vos enfants, comment ça se passe? Alors maintenant, ça change. Mais à une femme, ce sera systématique. Si elle a des enfants, mais comment vous avez pu? Vous êtes une mauvaise mère, vous avez abandonné vos enfants. Donc, c'est forcément, on est chargé de ça. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être envisagé comme une carrière ou plus difficilement parce qu'il va falloir se battre contre cette pensée-là. Parce que ça va être un métier de risque, parce que ça va être un métier difficile. Donc, après, bon, quand j'ai 30 ans, ça se pose moins comme problème. Mais il faut quand même se battre contre soi et contre toute cette société. Après, une fois qu'on a réussi à passer le pas, c'est un petit peu plus facile. Mais j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a bien élevée, pour qui c'était très important qu'on puisse vivre ce qu'on était, qu'on devienne ce qu'on était. Et elle a bien travaillé là-dessus. Donc, j'ai toutes ces voix qu'on entend, c'est du bruit et il faut s'en débarrasser de ce bruit, il ne faut pas l'écouter. Et quand vous avez une envie ou un rêve qui est un peu différent de ce que les autres font, tout de suite, les gens vont vous dire « Ah, c'est impossible. Ah, c'est difficile. Ah, c'est compliqué. Ah, quand même. » Et c'est du bruit, tout ça. Donc, il faut réussir à trouver l'entourage ou les amis qui vous disent « Ah, ok, d'accord, c'est peut-être une bonne idée, mais comment on le fait ?» Et qui vont poser des questions constructives, pas des juste « Ah, bah, t'es une femme, ça va être difficile. Ah, c'est une femme, c'est impossible. » Donc, il faut aller au-delà de ça. Et ça, quel que soit le genre. Mais peut-être pour les femmes, c'est un petit peu plus dur.
Est-ce qu'en revanche, c'est un avantage d'être une femme dans le relationnel, dans la quête, justement, d'information de l'autre, quand on parle? Est-ce que c'est plus facile?
Je crois que c'est plus facile d'être une femme. En fait, je crois que c'est un atout d'être une femme seule. Enfin, d'être une femme, et quand on part seule, c'est un atout. Parce que les gens n'ont pas peur de vous, contrairement à un homme qui serait seul. On introduira beaucoup plus difficilement un homme seul dans une famille. Je dormais avec la grand-mère, je dors avec la fille aînée, je vais dans la cuisine. J'ai cet avantage d'avoir la double casquette. Je suis une femme et en même temps, j'ai ce côté un peu transgenre de la moto et de la solitude qui fait que je peux à la fois aller manger dans le salon avec l'homme de la famille et aller cueillir des petits pois ou les cuisiner avec la mère, discuter avec la grand-mère, jouer avec les petites filles. Et c'est un immense avantage en tant que femme de pouvoir être observatrice et de pouvoir discuter avec tout le monde, sans distinction de genre. Donc non, c'est une force.
En 2018, hier donc, tu pars pour une autre très grande aventure au long cours, plusieurs mois, à chevaucher ta moto entre Santiago du Chili et Los Angeles en remontant la cordillère des Andes avec des passages en Bolivie, en Colombie, au Mexique. Tu passes de moins 10 degrés en Bolivie à de très grosses chaleurs en Amérique centrale, des pluies diluviennes en Colombie. Que t'a apporté ce voyage par rapport aux autres que tu avais fait en Europe, en Asie et même en Afrique?
Ce voyage, il m'apporte la confirmation que la liberté, c'est une valeur humaine et que c'est quelque chose qu'on a en nous en tant qu'humain, de trouver ce qu'on est, de vouloir être ce qu'on est. Et on a tous envie d'être libre. Et ce, quel que soit le pays, quels que soient les continents. Et plus ça allait en avant et plus j'ai trouvé des réponses qui étaient similaires. J'ai rencontré des gens qui étaient au Rwanda et au Guatemala qui m'ont dit un peu la même chose, du genre la liberté c'est bien, on doit pouvoir être libre et on doit être libre, mais ça ne doit pas faire de mal. Il y a un sentiment de responsabilité derrière la liberté, c'est des choix qu'on doit entreprendre avec ces responsabilités-là. Et elle ne doit pas être négative pour l'autre, elle ne doit pas entraver la liberté de l'autre. Et ça c'est quelque chose que je vais retrouver aussi là-bas. Et une chose aussi, c'est que ça va confirmer le fait que même si on a des religions différentes, quels que soient les continents, l'émancipation féminine, c'est un combat qui est partout et qui doit avancer. Et ce, quelles que soient les religions, quels que soient les pays, cette lutte-là, elle avance et elle avance de manière positive aussi.
On a envie d'avoir des photographies, on a envie d'être avec toi sur une moto à côté, qu'est-ce qu'il te reste comme flash?
Le plus beau moment, c'est quand j'arrive sur le salar de Uyuni en Bolivie, qui est le plus grand salar du monde, c'est la plus grande surface salée. C'est blanc, c'est brillant, on dirait de la neige, c'est dur. Et là, c'est incroyable parce que c'est un sentiment que j'ai rarement eu. Je l'ai eu aussi avec la Mongolie, où on pouvait aller partout. Là, c'est à 360. Vous pouvez décider de où vous voulez aller. Et là, c'est voler quasiment. J'avais l'impression de rouler sur un nuage. C'est tout blanc, le ciel, il est bleu, il est magnifique. Parfois, on a des flaques d'eau, donc il y a les nuages qui se reflètent dans le sol. Un sentiment immense de liberté, de pouvoir rouler comme ça à l'infini. Ça, c'est une des plus belles images de roulage en moto que j'ai eues. Et après, en termes de rencontres, je crois que c'est vraiment les gens de Colombie où on a une population extrêmement métissée. On a vraiment une population plutôt caribéenne sur la côte. À l'intérieur des terres, on a vraiment les planteurs de café. Et eux, ils ont traversé combien d'années de conflit ? 30 ans de conflit entre les FARC, entre la politique, entre l'extrême droite, entre les narcotrafiquants. Ils sont dans cette espèce de processus de paix et on sent que cette population, elle a envie de vivre, elle a envie de sortir. Ils ont vécu des couvre-feux, mais nous, on a vécu le confinement et c'est rien à côté de ce qu'eux ont vécu. Pendant des années, ils ont été confinés chez eux à ne pas sortir après une certaine heure, à avoir peur parce qu'ils pouvaient être dénoncés, mais pour rien. Donc, avoir cette peur au ventre, et là, tout d'un coup, ils sont dans ce processus de paix, ils revivent, et c'était extrêmement puissant d'avoir ces gens qui ont de l'espoir, de se dire, bah voilà, maintenant, j'ai plus peur d'aller chez mon voisin, et on a envie d'une autre vie. Et c'est un des plus beaux pays où j'ai été.
Est-ce que finalement, Mélusine, ta vie, c'est pas la liberté absolue aujourd'hui ? De voyager où tu veux, comme tu le veux, seul avec ta moto?
Je pense que j'ai acquis une sorte de liberté absolue, mais pas forcément que par la moto ou par que le voyage, mais par la certitude que je peux le faire. Et c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que je peux prendre ma moto ici à Paris, je mets la clé et je sais que je peux partir où je veux et quand je veux. Et ça ne veut pas dire que je le fais, mais je sais que je peux le faire. Et cette certitude-là, elle est énorme. Et ça, oui, c'est une sorte de liberté absolue.
Qu'est-ce que tu as appris sur toi en à peu près 10 ans d'aventure ?
Je crois que ce que j'ai appris, c'est que je dois continuer d'apprendre. C'est parce que les gens, quand je pose les questions ou quand je discute avec eux, ils passent leur temps à vous apprendre des choses et à m'apprendre des choses. Et ce, n'importe quelle que soit la personne. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris, c'est qu'il ne faut jamais présupposer de ce que les gens vont dire ou vont faire. Que ce soit la petite dame qui vend ses beignets, ou que ce soit un philosophe, ou que ce soit un chercheur, ou que ce soit le mécanicien. Ils ont tous des choses à apprendre et à m'apprendre, et des choses à transmettre. En tout cas, il faut essayer d'être le moins possible dans le jugement. Ce n'est pas forcément évident. Mais ça, c'est, je pense, que la plus grande leçon de ces 10 années d'expédition. C'est que, écoutez, c'est une richesse et qu'on ne connaît rien.
Il faut se nourrir de l'expérience des autres.
Constamment. Et essayer d'être le plus à l'écoute et en fait d'être le plus ouvert à ce que l'autre peut dire, en fait. Et se laisser surprendre et pas hésiter à poser des questions. Les gens, ils ont envie de parler. Ils ont envie de raconter ce qu'ils vivent. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. C'est la peur qui entraîne le racisme. Quand on a peur de l'autre, on a moins envie de l'aimer, on a moins envie de s'intéresser. Alors qu'on commence à être curieux, quand on commence à s'intéresser, on découvre qu'il a une manière de penser qui est logique. Il ne fait pas les choses pour rien. Et après, ça demande de l'apprentissage pour pouvoir changer des manières de faire, mais on a des choses à apprendre.
Aujourd'hui, Mélusine, tu es passée de l'autre côté du miroir. C'est toi qu'on écoute nous parler de tes expériences. Est-ce que tu as eu l'impression d'être enviée par les gens que tu as rencontrés dans tous les pays que tu as traversés, et notamment par les femmes que tu as pu interroger ?
J'ai rencontré des gens qui m'enviaient parce que ce sont des gens qui n'ont pas de passeport, par exemple. Quand j'étais au Somaliland, c'est vraiment sur la pointe de l'Afrique de l'Est, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « mais tu as une chance énorme, tu as un passeport ». T'as une existence, tu peux aller d'un pays à l'autre. Donc oui, il y a des gens qui m'envient. Pour beaucoup de femmes, je pense que c'est davantage l'idée de fierté de la sororité. C'est-à-dire de se dire, tiens, une femme est capable de le faire et ça me rend fière et ça me fait plaisir. Et peut-être que moi, je le ferai jamais, mais peut-être ma fille ou ma petite fille, elle pourra peut-être un jour prendre une moto et voyager. Et ça, par contre, je l'ai davantage retrouvé que de la jalousie. Les gens, ils sont plutôt fiers de se dire c'est possible. Hein. Ils sont plutôt, il y a une sorte d'enthousiasme par rapport à l'aventure. Parce que vous venez de dire quand même que quand j'arrive, c'est quand même tous mes sacs sont un peu mis n'importe comment. Je fais un petit peu, c'est pas très élaboré. Il y a quand même, j'ai voyagé jusqu'à, j'ai de la poussière, je suis sale. Il y a un côté aventure. Donc les gens, ils ont pas forcément envie de vivre dans une tente comme moi. Ça leur fait pas du tout envie. Mais ils se disent que c'est possible et voyager, ça leur fait envie. Mais une envie positive.
Parlons du futur maintenant, Mélusine. Je suis persuadé que tu as dans tes cartons encore des tas d'aventures potentielles. D'abord, est-ce que tu as envie de continuer à voyager seule?
J'ai pas forcément envie de continuer à voyager seule. Je pense que c'était un moment où j'ai vraiment eu besoin de le faire. Maintenant, j'en ai moins besoin. J'aimerais bien faire des voyages moitié-moitié. Un peu seule, parce que c'est quand même bien. C'est quand même assez agréable de pouvoir se dire je vais où je veux et je dépends de personne. Mais c'est bien aussi de partager. J'ai la chance de pouvoir partager mes aventures avec la caméra, donc je ne suis pas complètement seule. Mais c'est vrai, de pouvoir le partager en groupe ou avec quelqu'un, c'est agréable. Et j'aimerais bien pouvoir faire ouais, les deux.
Avec qui tu veux partager les prochaines aventures?
Ce serait sympa de pouvoir faire d'initier. J'ai pas mal de femmes qui me demandent « Ah, ben, j'ai peur » ou « J'ose pas » ou « J'aimerais apprendre à voyager comme toi ». Et je me dis « Tiens, ça pourrait être intéressant de faire un petit voyage pour justement donner un petit coup de pouce à ces personnes qui n'osent pas ». Ce serait une idée.
Mélusine, ton futur, c'est sans doute un voyage à moto en Arabie Saoudite. Et là, ben, tu vas regrouper tout parce que c'est un pays où le droit des femmes est compliqué. Et c'est un pays où ces femmes n'ont le droit de conduire une voiture ou une moto que depuis 2 ans. Il y a un symbole à vouloir découvrir ce pays-là?
Complètement, parce que c'est un pays qui est en train de s'ouvrir. C'est vraiment l'objectif d'aller à la rencontre des gens sur place et d'écouter les gens sur place, et pas leur gouvernement ou les envies du gouvernement, mais de voir justement comment c'est la réalité. Et là, c'est un bouleversement. Depuis 2 ans, les femmes ont enfin le droit de pouvoir conduire. Et ça, c'est suite à un combat qui a été fait par des dizaines de femmes et qui sont pour certaines en prison actuellement. Donc, c'est un pays qui est en train de muter, qui est en train de changer. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important d'aller maintenant. Parce que déjà, parce que j'ai le droit. Parce qu'il faut quand même se dire que le visa de tourisme, il n'est que depuis septembre l'année dernière. Jusqu'à présent, on ne pouvait y aller que pour les pèlerinages à la Mecque ou pour des raisons professionnelles. Donc j'ai enfin le droit de pouvoir aller visiter ce pays en tant que touriste et j'aurai le droit d'y aller pour pouvoir conduire en moto. Mais ça, c'est le fruit de combats de personnes sur place depuis des années. Et personne ne connaît ce pays-là. Donc oui, c'est une grande curiosité. Pour moi, c'est vraiment de l'exploration pure, d'aller rencontrer, d'aller passer du temps, de découvrir ce pays dont on parle beaucoup, mais que finalement, on ne connaît pas trop ce que les gens pensent.
Mélusine, je vais me faire, pour terminer notre entretien, un peu l'avocat du diable, ce que pourraient te dire certains de tes amis, certains membres de ta famille. Et quand est-ce que toi, tu te ranges un peu? Quand est-ce que tu vas fonder une famille, avoir une vie entre guillemets normale, sachant que tu viens de fêter tes 40 ans?
Mais... Ben, je crois que j'aurai jamais de vie normale. C'est pas à 40 ans qu'on va devenir normal. Enfin, je sais pas trop ce que ça veut dire normal. Mais non, je sais pas trop ce que ça va devenir ma vie, mais je vais continuer à faire ce que je veux, comme je l'entends, et au maximum, parce que c'est comme ça que j'entends ma vie. J'ai pas envie de vivre la vie pour faire plaisir aux autres. Et. Mais je l'entends souvent cette question.
Ben oui,
c'est, les gens sont là, mais alors
c'est pour ça que je te la pose.
Et moi, j'ai en tête Alexandra David-Nel, qui, je crois, elle avait 102 ans. Elle a redemandé un passeport juste avant de mourir. Et je pense que sans doute ma vie sera comme ça. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas des enfants ou une famille. Ce n'est pas incompatible non plus. Mais le voyage ou la découverte, ben, ce sera toujours présent. Donc, non, j'ai... C'est trop ancré, c'est trop fort pour arrêter. On ne peut pas. Mais pourquoi je le ferais?
Mélusine, est-ce qu'aujourd'hui tu as la vie que tu as rêvé d'avoir? Et est-ce qu'aujourd'hui tu es pleinement heureuse?
Oui, je crois que je suis pleinement heureuse. Je crois que je fais ce que je veux. C'est une richesse énorme. C'est pas lucratif. Ça demande des sacrifices, ça c'est sûr. C'est pas une vie facile. Mais faire ce qu'on veut, comme on l'entend, même si voilà, justement ça a un travail, un coût. Mais quelle joie, j'ai de la chance, mais c'est une chance que j'ai construite. Mais non, je suis heureuse, je suis vraiment heureuse.
C'est dur, Mélusine, d'être finalement 365 jours dans l'année totalement libre de ses mouvements et de sa manière de penser ?
La liberté, dans un sens, c'est quand on est capable de choisir ses propres limites et ses propres astreintes. Et j'en ai des astreintes et j'ai des limites. Mais c'est moi qui les ai choisies. Donc, c'est une force énorme. Elles ont un coût parce que ça veut dire que je suis loin de ma famille, ça veut dire que j'ai pas forcément des certitudes au terme d'emploi, ça veut dire qu'il faut toujours construire ce travail-là et qu'il n'est pas acquis. Mais je crois que ça vaut le prix. En tout cas, pour moi, je ne reviendrai pas en arrière. Donc, j'ai trouvé en tout cas mon équilibre et je suis bien là-dedans.
Mais l'usine, ce qui est formidable, c'est qu'on a pu partager ton existence. On était à côté de toi en moto, même quand tu étais seul. Et on a compris aussi combien les rencontres ont été intenses sur cette thématique de la liberté, que ce soit au Népal, au Rwanda, en Colombie ou partout dans le monde où tu as pu circuler. Merci de nous avoir fait partager tout ça. Et puis, bon vent pour ta prochaine aventure en Arabie Saoudite. Le plus rapidement, j'ai envie de te dire.
Merci beaucoup.
Merci, Mélusine.
Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.